Nous reprenons avec cette fois le séminaire et il me semblait important dans cette réflexion sur les bibliothèques qui prend, comme vous l'avez vu, un tour un peu particulier, d'évoquer une figure, la figure de quelqu'un qui a énormément réfléchi à cette question de la tradition, de la transmission des œuvres du patrimoine et qu'on connaît surtout comme la transmission des œuvres du patrimoine, des œuvres d'art plastique. Et c'est évidemment André Malraux. André Malraux, dont on connaît l'action qu'il a eue en tant que ministre de la Culture sur ce sujet, mais aussi, et c'est cela peut-être qui nous intéresse davantage, mais nous en saurons davantage tout à l'heure, dans sa réflexion sur le musée imaginaire. Et la question qui d'emblée me venait à l'esprit, c'est de savoir... s'il y a un musée imaginaire chez André Malraux, y a-t-il également une bibliothèque imaginaire? Est-ce que ce musée imaginaire comporte aussi, comporterait des œuvres de littérature? Alors, à qui poser la question? Malraux n'était plus là, malheureusement. Mais il y a le grand malraussien parmi tous que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, qui est Jean-Louis Janel. Jean-Louis Janel, qu'on présente à peine, qui est professeur de littérature française à Sorbonne Université et qui est l'un des meilleurs spécialistes de la littérature française du XXe siècle et qui s'est fait connaître par de nombreux travaux, nombreux livres. Je vais en citer deux seulement. Ce livre, mais il y en a beaucoup d'autres, il y aurait ce livre qui était paru chez Gallimard dans la Bibliothèque des idées, « Écrire ses mémoires au XXe siècle, déclin et renouveau ». Donc, Jean-Louis Janel est celui qui a, je dirais même pas ressuscité, mais donné un statut peut-être dans les études littéraires à la question des mémoires, hein, des mémoires, et donc d'où la place que Malraux occupe dans sa réflexion, ou De Gaulle, ou d'autres écrivains. Et puis, Jean-Louis Janel travaille aussi sur le cinéma et sur les scénarios de films, en particulier les scénarios réalisés ou non à partir de romans de Malraux. En particulier, est paru au Seuil dans la collection Poétique le livre « Films sans images, une histoire des scénarios non réalisés de la condition humaine ». Tout à l'heure, je vous parlais de la bibliothèque du degré zéro des étoiles nouvelles. Eh bien, il y aura un peu la bibliothèque des scénarios non réalisés, le degré zéro des films, en quelque sorte. Donc, il faut s'intéresser toujours, lorsqu'on regarde bibliothèque, ça c'est un refrain sur lequel je reviendrai plus tard, lorsque nous verrons de plus près la question concrète des bibliothèques, à ce qui est en dehors de la bibliothèque. Évidemment, toute bibliothèque définit en quelque sorte un en dehors, et il faut réfléchir à cet en dehors pour mieux comprendre ce qu'est la bibliothèque en elle-même. Et puis, Jean-Louis Janel a aussi une œuvre d'éditeur scientifique et critique. Il a édité Henri Godard les fragments d'un roman sur la résistance, Non, de Malraux. C'était chez Gallimard en 2013. Et puis, il est aussi le directeur ou le co-directeur de l'édition des mémoires de Simone de Beauvoir, encore des mémoires, dans Gallimard, dans la bibliothèque de la Pléiade. Donc, vous voyez, une œuvre riche et abondante et qui destinait, en quelque sorte, Jean-Louis Janel à venir répondre à la question que je voulais lui poser et à laquelle il essaie de répondre par, voilà, un titre qui n'a pas changé, je crois, André Malraux ou l'impossible bibliothèque imaginaire.
Merci beaucoup, William. Alors, effectivement, il y avait beaucoup de raisons qui semblaient justifier l'existence chez Malraux de cette formule, bibliothèque imaginaire, qui serait le pendant quasi nécessaire de la célèbre locution « musée imaginaire », dont la première formulation remonte assez tôt. Elle remonte à un discours prononcé le 4 novembre 1946 sur les fronts baptismaux de l'UNESCO, conférence qui s'intitulait « L'homme et la culture artistique ». En 1937, dans une série de 4 articles qui était paru dans une revue, Verve, où il exposait le premier état de sa pensée, l'écrivain n'envisageait alors qu'une psychologie de l'art, autrement dit une analyse du processus de création. À ce stade, Malraux entendait surtout montrer que la matière de l'artiste n'est jamais la vie elle-même, mais toujours une autre œuvre d'art. Il n'en va plus de même lorsqu'il livre, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en 1946, donc, les prémices du musée imaginaire, qu'il va publier l'année suivante, en 1947, et dont voici l'axiome. Dès que le problème de l'art se pose, nous découvrons que, pour nous, la peinture, c'est essentiellement le musée. Le phénomène est en partie accidentel, puisque le musée n'est qu'une invention récente, et qui plus est européenne, et néanmoins déterminant, puisqu'en dépit du titre d'ensemble du premier cycle, ce sera bien la psychologie de l'art, c'est bien à une réflexion médiologique que Malraux se livre en faisant apparaître les soubassements matériels, c'est-à-dire à la fois techniques et institutionnels, de notre rapport à l'art. Et à ses yeux, notre rapport aux œuvres est devenu totalement indissociable du cadre à travers lequel nous accédons à ces œuvres. Or, le propre du musée, c'est de reposer sur la rareté. Il est composé de pièces uniques, il apparaît comme l'esquisse plus ou moins réduite d'un tout idéal qui est projeté par les différents échantillons qui sont réunis. Autrement dit, il appelle d'une façon impérieuse tout ce qui lui manque. Si bien, déclare l'orateur donc en 1946, je fais toujours référence au même discours, que commence donc, si bien que, dit-il, commence à s'établir dans notre esprit quelque chose qui va succéder au musée, que j'appellerai le musée imaginaire. C'est la première fois qu'il emploie la formule. Alors Malraux, on le sait, n'a jamais été avare en concept, en néologisme. On peut penser au farfelu. C'est lui qui a fait de ce terme une sorte de catégorie littéraire ou esthétique, les antimémoires, en 67. Et puis l'idée qui est un peu moins connue, la notion un peu moins connue d'aléatoire, mais qui est très intéressante, j'en parlerai peut-être un tout petit peu à la fin. Aucune de ces notions n'a toutefois eu la fortune critique de ce musée imaginaire qui est souvent employé de nos jours indépendamment du sens que lui conférait à l'époque l'essayiste, parfois même aux limites du contresens d'ailleurs, comme lorsqu'un complément du nom en particulier est donné à cette formule. On parle par exemple, on a parlé du musée imaginaire de Diderot, de Balzac, de Proust, de Michel Butor, tout cela donnait lieu à des publications, ce n'est pas tout à fait conforme au sens que Malraux voulait lui donner. Alors cette formule, bibliothèque imaginaire, elle semblait d'autant plus attendue que cette institution suscite spontanément le romanesque. On peut distinguer trois variantes principales. Il y aura une première qui est érudite, comme chez Huysmans dans À rebours, et puis Bouvard et Pécuchet, Flaubert serait la parodie la plus féroce de cette espèce d'ambition érudite. La deuxième variante, elle serait spéculaire, c'est la bibliothèque de Babel, de Borès, qui en est le cas le plus exemplaire. Et la troisième, elle serait policière, comme dans Le nom de la rose, d'Eco. La voix de Baudelaire, le poème de Baudelaire, la voix, débute par ces vers. Mon berceau s'adossait à la bibliothèque, Babel sombre ou roman, science, fabliau, tout, la cendre latine et la poussière grecque, se mêlaient. Ces premiers vers illustrent parfaitement le fait qu'en littérature, toute référence à la bibliothèque tend à l'allégorie. Intime ou illimité, cet espace fait de livres collectés est toujours envisagé comme la configuration d'une certaine conception du savoir. Or, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'allégorie est une source très féconde d'imaginaire. Le roman de la bibliothèque est l'une des voies privilégiées de ce que Michel Murat a nommé le romanesque des lettres dans un essai qui est paru il y a trois ans maintenant, en 2017. Du seul fait d'excéder les ressources en ressources narratives et herméneutiques, les limites de ces rayonnages, la bibliothèque s'avère a priori comme une source d'imaginaire, s'avère être une source d'imaginaire qui est plus féconde, semble-t-il, que le musée. Malraux, d'ailleurs, lui-même, a multiplié les parallèles. Il les a parfois simplement suggérés, à d'autres moments clairement affirmés, et il a montré cette convergence qui existe entre le musée et la bibliothèque à plusieurs moments de leur histoire. De fait, les deux institutions sont unies par une histoire conjointe qui est dépositaire, ils sont dépositaires l'une et l'autre, les deux institutions du patrimoine. On peut penser à leur naissance mythique dans le cadre du Muséion d'Alexandrie, à la fois sanctuaire des muses et lieu de vie des savants qui disposaient de la plus vaste bibliothèque jamais réunie dans l'Antiquité, ou encore au contexte révolutionnaire dans lequel furent créés le Muséum central des arts, en novembre 1793, dans la Grande Galerie du Louvre, et puis l'ancienne bibliothèque du roi, qui est devenue bibliothèque nationale en 1792, et dirigée par Chamfort au début. Par la suite, il a été d'ailleurs question de les réunir toutes les deux au Louvre, précisément. D'abord en 1801, à l'occasion de l'arrêté Chaptal, qui impliquait, conformément aux vœux formulés par Napoléon, de vendre les bâtiments de la Bibliothèque nationale, trop étroits déjà à l'époque, afin de couvrir les frais du transfert de la bibliothèque au Louvre. C'est un projet qui a été renouvelé en 1848, conformément au plan de l'architecte Louis Visconti, puis en 1852, juste après l'accession de Napoléon III au pouvoir, mais enterré par ce dernier, qui a privilégié la légitimation du pouvoir, nouveau pouvoir impérial au détriment de cette espèce de vaste, c'est la formule de Victor Hugo, vaste empire métropolitain de l'intelligence que Victor Hugo a décrit et a appelé de ses voeux dans un discours, très beau discours, à l'Assemblée constituante en faveur de l'achèvement du Louvre en février 1849. Ça n'a donc pas eu lieu. En tout cas, cet achèvement qui aurait vu la réunion du musée et de la bibliothèque n'a pas eu lieu. Alors, il y aurait beaucoup à dire de ce grand projet manqué évoqué par Hugo, ici, derrière moi, qui aurait réuni le musée et la bibliothèque. Ça a d'ailleurs été longtemps le cas en Angleterre, où le British Museum et la British Library coexistaient initialement dans le quartier de Bloomsbury, puis dans Tottenham, dans le quartier de Tottenham Court, jusqu'en 1997, où ils ont été séparés. C'est le cas aussi dans bien des musées-bibliothèques, c'était la formule qui était employée, ont été construits en France au XIXe siècle, essentiellement. C'est le cas à Rouen, à Grenoble ou encore à Toulon, par exemple. Plus récemment, ça a été le cas, mais de manière totalement renouvelée, lors de la construction du Centre Beaubourg en 1977, c'est l'année de l'ouverture, où se trouve donc logée la BPI. Une telle convergence, elle trouve son répondant dans l'œuvre critique de Malraux elle-même, puisque son essai posthume, L'homme précaire et la littérature, dont je vais parler ici, en octobre 1976, Malraux venait juste de réaliser une refonte d'une première version de cet essai, L'homme précaire, soumise à Gallimard en juin, juste donc quelques mois avant de mourir au mois de novembre. Donc c'est un essai qui a été publié juste après sa mort. Cet essai, il apparaît comme la transposition dans le domaine de la littérature, des lettres, des cadres théoriques qui avaient été établis une première fois dans Les Voies du silence, c'est le premier cycle, puis réaménagé dans La métamorphose des dieux, deuxième cycle, dont le premier volume avait été publié très tôt, en 57, et les deux seconds beaucoup plus tard, juste avant la mort, et l'ensemble, La métamorphose des dieux, publié en entier, juste avant la mort de Malraux. À Pierre Lefranc, qui est cité par Sophie de Villemorin, Malraux avait déclaré d'ailleurs, fin septembre 1976, « Je fais le musée imaginaire pour la littérature ». Donc, il le concevait un peu comme ça. Étrangement toutefois, la formule bibliothèque imaginaire ne se trouve pas sous la plume de l'écrivain. Elle n'existe pas. Y a bien la notion de métamorphose, de vérité, d'irréel, de présence, de secte, toutes ces notions qui ont été forgées au long des deux grands cycles, les voies du silence et la métamorphose des dieux, se retrouvent dans le petit texte, cet essai de 1977. Alors comment expliquer que le musée imaginaire n'ait pas trouvé son équivalent du côté de la bibliothèque, alors même que Malraux a lui-même multiplié les parallèles entre les deux institutions ? L'absence de cette locution, elle paraît d'autant plus incongrue que bibliothèque imaginaire, est employé, et il s'est trouvé étrangement matérialisé dans le prière d'inséré qui a été rédigé par Jean Grosjean juste après la disparition de l'écrivain pour l'éditeur, pour Gallimard. Et Jean Grosjean était un peu le légataire, alors pas réel, concret, mais plus ou moins spirituel. Enfin, il l'était à l'époque au tout début, mais il a ensuite passé la main, pardon. Mais il était spirituellement, en tout cas, de Malraux. Ce passage donc, que je vous ai montré, très beau, est très souvent cité. André Malraux a toujours été fasciné par la métamorphose des dieux. Il nous a rendus conscients de leurs étonnants changements de visage depuis leur naissance préhistorique jusqu'à leurs masques actuels. Mais n'attendions-nous pas de lui à la longue les métamorphoses de la littérature, car en ce domaine, s'il est un connaisseur, il est aussi créateur. Et si la bibliothèque imaginaire est moins étendue et peut-être moins énigmatique que le musée, elle le concerne, elle concerne davantage tout l'homme. Pour sa part, Malraux ne va jamais dans l'homme précaire plus loin que cette formule. Ce musée, cette bibliothèque, réelle ou imaginaire, sont, comme le monde de Dieu, valorisés en face du ciel. C'est le seul passage où on trouve un équivalent de bibliothèque imaginaire. Le balancement, il est donc omniprésent. dans le texte. Et le transfert, il est esquissé ici, dans cette citation, mais sans jamais aboutir à la locution que Jean Grosjean, chargé de présenter donc l'œuvre ultime de cet essayiste qui était connu pour la complexité de ses formules, sent donc que cette locution à laquelle il a tout naturellement déduit de sa lecture du manuscrit ne s'y trouve. Or, si l'écrivain parle longuement du musée imaginaire de la littérature, il emploie très souvent cette expression, musée imaginaire de la littérature, ou également de la bibliothèque intérieure, ou de la bibliothèque de la Pléiade, ou même des classiques de poche, ou tout simplement de la bibliothèque, sans majuscule. Jamais donc on ne rencontre bibliothèque imaginaire, et peut-être cela tient-il à ce que la rencontre de la bibliothèque, à la fois comme schème de pensée et comme institution, lui a ouvert une autre voie à ce moment-là. De sa lecture de L'homme précaire, Grosjean a retenu que la bibliothèque imaginaire est moins étendue, restriction sur laquelle je vais à mon tour revenir. Mais en réalité, le propos de Malraux se voulait plus critique initialement. Bien que conscient qu'il existe un imaginaire de la bibliothèque, l'essayiste a volontairement écarté cette notion de bibliothèque imaginaire, parce que celle-ci ne constitue pas le pendant exact du musée imaginaire. Confronté à la bibliothèque, c'est la notion même d'imaginaire qui a évolué aux yeux de l'écrivain et qui l'a conduit à redéployer sa pensée. C'est ce que je vais essayer de montrer ici. Alors, pour commencer, je voudrais rappeler que le parcours, on le sait tous, politique de Malraux lui a valu d'âpres critiques. En octobre 48, Esprit parlait dans son numéro 149 du cas Malraux. C'était un euphémisme de la part de l'une des revues les moins sectaires à l'époque pour désigner le scandale intellectuel provoqué par le ralliement de l'écrivain au général de Gaulle. Son abandon au profit du militantisme politique et de ses écrits sur l'art ont heurté également, tout comme son ralliement politique, tous ceux qu'avaient accompagnés pendant toutes les années 30 cette espèce de mélange d'une narration haletante, d'aphorismes sur le sens de l'existence et de pathos révolutionnaire qui sont le propre des conquérants de la condition humaine ou de l'espoir. Dans « Mise honnête », en 1957, Roger Icor s'était indigné que Malraux n'écrivit point ce roman sur la résistance furtivement annoncé à la Libération et que tout le monde attendait de lui. « Pourquoi ce silence, dit-il, sur nos tortures, nous, Français, hein, bien sûr, pourquoi cette rupture inattendue dans une chaîne qui semblait se prolonger d'elle-même ?» Malraux avait dirigé la brigade Alsace-Lorraine. Aussi, ses contemporains attendaient-ils, mais donc en vain, qu'après la Chine, l'Allemagne, l'Espagne, la France fit à son tour la matière d'un nouveau roman. Car la fiction se confond à ce point avec le roman à l'époque, à cette époque, peut-être encore avec nous, pour nous, je ne sais pas. Donc la fiction se confond à ce point avec le roman que l'abandon de ce genre par Malraux, après la guerre, est apparu comme une renonciation à la littérature même. C'est une conclusion que l'on n'a pas hésité à tirer de la création en 1959, du ministère des Affaires culturelles, qui est né de la réunion de différents services prélevés à l'éducation nationale, à l'industrie et au commerce et à la direction, au haut commissariat, pardon, à la jeunesse et au sport. Si la direction des arts et des lettres, qui avait été créée en 1944 et qui mêlait à l'époque, en 1944, les musées et les bibliothèques, a bien été accordée au nouveau ministère de la culture, et elle sera dirigée par Gaëtan Picon et ensuite par Pierre Moineau, cela a été au prix d'une dissociation. La direction des bibliothèques et des archives nationales est restée à ce moment-là, en 1959, dans le giron de l'éducation nationale. Alors, beaucoup de commentateurs se sont, de ce fait, étonnés de ce partage, notamment Daniel Lindenberg, je vous cite ici parce que c'est lui qui a formulé les choses de la façon la plus intéressante, bénéfique pour la conservation et la divulgation du patrimoine architectural, plastique, théâtral, l'ère Malraux n'est guère bénéfique, pour le livre et la lecture. Situation paradoxale, si l'on songe qu'André Malraux était après tout l'un des plus grands écrivains français du siècle, ministre d'un homme, le général de Gaulle, lui-même pétri de culture littéraire et classique, et grand écrivain lui aussi à ses heures seulement. On a souvent mis cet état de fait au compte de Malraux lui-même, comme si le romancier n'avait pas su défendre en quelque sorte les intérêts de sa corporation, comme s'il avait abandonné volontairement les bibliothèques et la lecture publique à l'éducation, alors même que la direction des arts et des lettres était passée du côté de la culture, ce qui est évidemment un petit peu aberrant, ce sera rectifié plus tard dans les années 70. On sait pourtant que l'écrivain n'a pas vraiment eu son mot à dire sur le périmètre de son nouveau ministère et que le partage en question a résulté en priorité des résistances très fortes opposées par la plupart des ministères et notamment le ministère de l'Éducation nationale, très puissant. Il faudrait évoquer ici la figure de Julien Quint, grand résistant qui avait la main haute sur les bibliothèques et qui, bien sûr, a... certainement pesait beaucoup dans le fait que l'on ne divise pas, que l'on ne fasse pas passer les bibliothèques du côté, de ce côté-là. À l'inverse, la mesure la plus emblématique des années Malraux, les maisons de la culture, ont privilégié les scènes théâtrales et les espaces d'exposition. Alors bien sûr, en droit, rien n'empêchait, rien n'interdisait la construction des bibliothèques et dans les faits, ça a été très rarement le cas. Philippe Urfalino a parfaitement montré que l'action culturelle de Malraux et des collaborateurs, de ses collaborateurs les plus proches, notamment Picon, Gaëtan Picon, visait à se distinguer à la fois de l'action populaire, c'était celle qui avait été portée par la jeunesse et les sports depuis très longtemps, et de la pédagogie, enfin depuis le Front populaire, mais aussi se distinguer, se dégager de la pédagogie qui était portée, prise en charge par l'Éducation nationale. Autrement dit, Malraux et ses collaborateurs ont mis l'accent sur le fait de mettre en présence, de mettre le public en présence directe des œuvres. C'était cela qui définissait la culture telle que le ministère de la Culture la pensait. Autrement dit, on a mis l'accent sur les expositions, les spectacles, les concerts classiques. Ce que l'on attendait, c'était un choc esthétique. C'est cela qu'il fallait provoquer, tout à l'inverse du travail de médiation traditionnellement appliqué aux livres ou aux bibliothèques jusqu'ici. C'est ce qui explique d'ailleurs la violence des attaques qui ont été portées par Marc Fumaroli en 1991 dans son grand pamphlet contre l'État culturel. Aux yeux de Fumaroli, l'écrivain ministre avait délibérément écarté les bibliothèques de son périmètre, laissant le savoir à l'université afin de s'approprier l'exercice du plaisir et de l'admiration par contact immédiat avec les œuvres. Autrement dit, Malraux avait fait le choix de la culture de l'image contre la culture du texte. C'est l'analyse que fait Fumaroli, elle est contestable, mais elle est intéressante. Aux yeux de Fumaroli, le caractère néfaste de l'état culturel, il tenait, entre autres raisons, à cet avantage accordé aux arts de l'image. Les spectacles subventionnés apparaissaient ainsi comme une sorte de substitut laïque à la poétique ou à la religion qui sont à cette époque défaillantes. Donc, avantage accordé aux arts de l'image au détriment de la lecture, activité jugée isolée, privée et abandonnée du coup à l'Éducation nationale, au risque de faire peser sur elle un didactisme rebutant pour les générations à venir. Alors, quoi qu'il en soit des intentions réelles de Malraux et du rôle joué, à mon avis, plus important par les rivalités entre les administrations, il importe de prendre en compte ce contexte, parce qu'en tant que ministre de la Culture, Malraux a eu affaire aux musées, mais jamais directement aux bibliothèques. Ça frappe, évidemment, si l'on songe que ces deux derniers romans, L'espoir et les nuées de l'Altenbourg, avaient pour arrière-plan la bibliothèque. On pourrait citer Alvéar, le professeur d'histoire de l'art, l'un des personnages marquants de l'espoir, qui refuse de partir de Madrid, menacé par les troupes franquistes, parce qu'à son âge, dit-il, on ne voyage plus sans bibliothèque. Et il y aurait beaucoup d'autres exemples à citer comme celui-là. Alors, faut-il en déduire qu'après la guerre, c'est dans le musée que se concentre, pour Malraux, toute la réflexion qu'il entend consacrer à la question culturelle. Loin s'en faut, me semble-t-il. On connaît très mal les deux derniers textes que Malraux a consacrés à la littérature, et on ne le voit pas comme un essayiste, un théoricien de la littérature, en dépit de ce que Jean-Claude Lara a tenté de montrer, mais sans s'attacher paradoxalement à ces deux derniers textes, précisément. Donc, il a consacré à la fin de sa vie, en 1976, à la question de la littérature. Le premier, c'est Néocritique, c'est une postface à un grand colloque qui avait été consacré à son œuvre et où étaient formulées quelques-unes des thèses qui vont être développées ensuite dans cet essai posthume, L'homme précaire et la littérature. Or, d'emblée, dès le deuxième chapitre de Néocritique, l'écrivain constate l'irrémédiable déséquilibre qui existe entre le musée et la bibliothèque. Les deux institutions sont bien faites l'une et l'autre de résurrection, donc soumises à la loi de la métamorphose. Néanmoins, la dernière, cette dernière, ne s'y exerce pas, la métamorphose, de la même manière. Il y a trois raisons à ce déséquilibre. Je vais les évoquer rapidement. Une raison d'échelle, une deuxième de moyens et une troisième de nature. Les échelles, tout d'abord, sont radicalement différentes. À plusieurs reprises, Malraux prend pour repère le chapitre intitulé « Les génies » dans le William Shakespeare de Victor Hugo. Cette liste de ses élus ou de ses égaux est très limitée. Elle va d'Homère à Shakespeare. Hugo, écrit Malraux, s'arrête là. Pas de purgatoire, comme en peinture. Aucun de ses élus n'a été mis au rancard. Alors certes, nous ajouterions, nous, des auteurs. Entre-temps, notre bibliothèque s'est agrandie, mais précise Malraux, vous le voyez, il se trouverait moins de grandes découvertes que nous ne le croyons. Ce musée imaginaire, c'est Israël, l'Antiquité, la Renaissance. Nous leur adjoindrons des symboles plutôt que des œuvres, à Dante, Tristan, mais pas Béroul. À Homère, les épopées de l'Orient ancien ou de l'Asie? Non. Israël et l'Antiquité exercent sur nous une complicité formatrice qui, à la rigueur, franchit la barrière de la langue, alors que la Bhagavad Gita reste en Occident pâture de spécialistes, même dans la traduction de Gandhi. Regardez la fin, après le romantisme, notre musée imaginaire de la sculpture annexera la terre, pas celui de la littérature. Il y a donc bien un déséquilibre. Cette différence d'échelle, elle est telle que si la métamorphose s'applique aux deux domaines, celle-ci reste moins visible en littérature que dans les arts plastiques, puisque à 5 siècles de littérature répondent 5 millénaires de sculpture. Les échelles ne sont pas les mêmes. Établi dans Néocritique, ce constat va être ensuite développé, argumenté dans L'homme précaire, où il va être question des limites de tout musée imaginaire de la littérature, qui sont, écrit Malraux, manifestes, à l'époque où celui de la sculpture annexe la terre. Il reprend cette idée de Néocritique. En effet, l'art des époques religieuses, à savoir tout ce que Malraux subsume dans son système de l'art sous le concept de surnaturel, c'est que c'est un système à 3 phases dans la métamorphose des dieux. Il y a le surnaturel, ensuite l'irréel et l'intemporel, dans lequel nous trouvons encore avant le passage à l'aléatoire. Donc tout ce qui est subsumé sous le surnaturel offre une foisonnante résurrection. En revanche, écrit Malraux, ni Gilgamesh, ni le Rig Veda, ni le Popol Vuh ne se délivrent de l'archéologie. Ce sont des textes que nous ne lisons pas comme œuvres littéraires, mais que nous envisageons dans une perspective archéologique. Alors, j'en viens à la deuxième raison de ce déséquilibre, c'est celle des moyens. Le concept même de musée imaginaire repose sur une tension entre l'espace institutionnel et ce que cet espace suscite par le biais de la reproduction, de la copie à la gravure jusqu'à la photographie. Puisque toute visite au musée réel nous confronte à des espèces de galeries mentales que nos modes de reproduction mécanique agrandissent mécaniquement, considérablement. Le musée imaginaire est à la fois individuel, propre à chacun, et collectif. Il est formé de ce monde de la photographie que Malraux désigne comme le serviteur du monde des originaux. En tant qu'espace concret, le musée est donc indissociable des techniques de diffusion qui le prolongent sans cesse. Mais si, écrit Malraux, un album consacré au Louvre est censé reproduire le Louvre, je saute la parenthèse, l'ensemble des ouvrages consacrés à l'art ne reproduit pas un musée qui n'existe pas, il le suggère et plus rigoureusement le constitue. Alors non pas parce qu'il offre des possibilités, ou pas seulement parce qu'il offre des possibilités d'exposition et de diffusion quasi illimitées, mais plus profondément parce qu'il métamorphose chacune des œuvres représentées et il rend l'accès les limites du musée inassignables. Autrement dit, la reproduction, les techniques de reproduction rendent accessibles des œuvres qui autrefois ne l'étaient pas. On peut penser aux temples, aux statues, aux ornements qui sont inséparables de leur lieu de création. Et il rend également visible, il transforme en art, par les techniques de l'agrandissement, de la mise en perspective ou les modifications de l'éclairage, tout ce que l'on ne pouvait pas voir, tout ce que l'on laissait de côté. Par exemple, Malraux prend énormément d'exemples, il prend le grossissement des sceaux, des monnaies, des figurines, grâce auxquelles, écrit-il, l'image n'est plus simplement la reproduction du modèle, mais le modèle lui-même devient moyen de l'image. Il y a une sorte de goût qui se développe et on les voit en quelque sorte véritablement comme des œuvres d'art, ce qu'elles n'étaient pas statutairement auparavant. Elle les transforme, la reproduction les transforme en ce que Malraux appelle des arts fictifs. Alors, il n'en va pas de même dans le cas de la littérature. Si la peinture est presque un langage universel, la littérature, quant à elle, n'a connu rien de comparable à la révélation photographique. Elle est contrainte, en effet, toujours d'en passer par la traduction. Et c'est l'obstacle de la traduction qui pose le plus de problèmes. C'est lui qui est le principal obstacle à l'accession sans limite des œuvres à la fois en diachronie, pour les œuvres des civilisations passées, et en synchronie, au-delà des différences linguistiques et culturelles. Malraux écrit « Le musée imaginaire n'exige pas de traducteur. L'imprimé annexe une partie de l'oral. C'est par l'imprimerie que nous sont transmis l'Iliade, Shakespeare, Molière. De la même façon que la fiction imprimée semble annexer le vaste domaine de vie et de sagesse qu'on avait appelé littérature, et il est significatif que la bibliothèque ait été changée par le genre qui supporte le mieux la traduction. » Donc, vous voyez la limite. Puisque le genre qui supporte mieux la traduction, c'est bien sûr le roman, plus largement la prose narrative. Or, le roman, précisément pour Malraux, j'y reviendrai peut-être, disparaît après la guerre. Qu'en est-il, j'y reviendrai un peu plus tard, qu'en est-il alors lorsque le sens du texte est indissociable de la forme ? C'est le cas notamment de la poésie. Les vers glissent, montre Malraux, vers la prose, et même une sorte de langage qui se réduit à son sens, sauf à être traduit, si des vers sont traduits par un autre poète, mais on est proche de basculer du côté de la réécriture dans ce cas-là. Et quand bien même l'essentiel d'un récit, par exemple la dynamique narrative du récit, subsiste à travers une traduction, force est de constater qu'il n'y a pas de commune mesure entre l'interrogation d'une œuvre comme la grande chanteuse sumérienne et une œuvre littéraire comme le Gilgamesh, entre un fétiche d'un côté et un chant africain de l'autre, c'est-à-dire entre le musée imaginaire et la bibliothèque. Pour le dire simplement, ce qui manque à la bibliothèque, c'est de pouvoir ressusciter ces primitifs, de pouvoir annexer ces sauvages, ainsi que le fait le musée, autrement dit, de pouvoir intégrer les œuvres qui appartiennent au domaine du sacré ou à ce qui est radicalement autre. Dans La Métamorphose des dieux, Malraux notait que notre regard s'oriente de manière magnétique vers les œuvres sans auteur, ce qu'il appelle les œuvres sans auteur. Il évoquait les masques de fibres et les plombs de Seine, les bois flottés, les pierres semi-précieuses, tout ce qu'il appelle donc les contre-arts éventuels du futur qui relèvent de l'aléatoire et qui entrent continuellement par des phénomènes de patrimonialisation dans notre musée, l'agrandissent continuellement. Ce sont des formes inconnues, inattendues, qui sont irréductibles à une esthétique et auxquelles le musée ouvre ses portes toutes grandes, là où la bibliothèque se montre incapable de faire une place réelle, une part réelle à la littérature orale ou à toutes sortes d'autres œuvres. Littérature orale, sauf pour les contes, par exemple, lorsqu'ils sont attribués à un auteur. Lorsqu'il y a un auteur, mais des œuvres réellement sans auteur, la bibliothèque peine à les faire entrer. Et Malraux a cette formule très belle, « Quelle écriture fut-elle idéographique nous parlerait à la façon des bisons de la préhistoire ?» La troisième raison de ce déséquilibre, c'est la nature même des deux domaines. Pour saisir ce point, je rappelle d'abord que Malraux s'oppose à toute théorie de limitation dans sa réflexion sur l'art. Toute création, pour lui, qu'elle soit picturale ou littéraire, s'explique par l'existence chez l'artiste de schèmes initiaux, mais qui n'ont pas la même portée en littérature et en art. La présence de tels schèmes est particulièrement visible dans la sculpture, la peinture, parce que l'évolution de l'artiste les y dévoile. Les portes que tente de forcer Dostoïevski dans Les pauvres gens, Balzac dans La peau de chagrin, Stendhal dans Armance, s'ouvrent sur les Karamazov, Les illusions perdues et La chartreuse de Parme, moins clairement que sur la maison du pendu de Cézanne, sur l'Estaque, s'ouvre sur les Gréco de Venise, sur ceux d'Espagne, le David de Michel-Ange, sur le penseur. C'est toujours une pensée de la mise en parallèle qui est parfois un petit peu compliquée à suivre. Alors à quoi du coup tient cet étrange déficit de la littérature. Là encore, un fait d'ordre linguistique. Mais de manière plus profonde, plus fondamentale qu'en ce qui concerne la traduction précédemment. Réfléchissant à la nature du génie, Malraux écrit « Lorsque disparaît dans la peinture, vous allez voir la formule est un petit peu dense, mais lorsque disparaît dans la peinture et la musique la complexité qu'apporte au cas du romancier le fait que l'expérience humaine peut être exprimée par la parole, ce qui sépare l'artiste de l'homme devient clair. Ils ne combattent pas le même adversaire. Le second lutte contre tout ce qui n'est pas lui. Le premier, dans un domaine capital et circonscrit, lutte d'abord contre lui-même. » Alors, vous voyez qu'ici, il est question d'un fait essentiel, à savoir l'homologie de substance entre la littérature et ce dont elle traite. Et c'est ça qui pose difficulté. Le peintre, aussi bien que l'écrivain, crée dans une sphère qui, pour Malraux, est radicalement différente de l'existence ordinaire. Il n'imite pas la réalité, il crée dans un monde qui est le leur. Ce que Malraux nomme le domaine capital et circonscrit que tout art forme, constitue, peinture, littérature, etc. Reste que l'écrivain travaille à partir d'expériences dont la nature est verbale. Cette identité de substance entre le discours ordinaire et l'écriture rend plus difficile à identifier de ce fait la part due à la création littéraire et par conséquent l'existence de ces schèmes à l'origine d'un style auquel nous sommes plus sensibles immédiatement lorsqu'il est question de peinture ou d'art. Lorsqu'il est question de littérature, une histoire, pour spécialiste, remplace notre passion des arts primitifs, dit Malraux. Non seulement parce que l'écart temporel ou linguistique nous contraint à en passer par une forme de traduction, même si c'est notre langue, mais deux siècles plus tôt, la langue n'est plus la même, mais surtout parce que l'homologie constatée entre l'œuvre et notre expérience conduit à envisager la littérature comme un reflet et nous rend plus inaccessibles des œuvres qui nous sont trop éloignées. Cette phrase, cette formule, avec les formes lointaines ou disparues depuis Sumer jusqu'à l'Afrique noire, en passant par les hautes époques de l'Asie, le musée imaginaire nous propose les mythes auxquels nous ne nous rattachons pas, mais avec lesquels nous pouvons communier, avec lesquels nous pouvons communier directement, par la présence directe. Alors que la bibliothèque, avec les anciens, avec les œuvres médiévales, nous apporte les mythes auxquels nous nous rattachons, mais que nous avons du mal à saisir en réalité, ou avec lesquels nous avons du mal à communier. Comparée au musée, cette bibliothèque semble petite. Alors ces trois raisons fondamentales, elles expliquent, me semble-t-il, que le parallèle si attendu entre musée et bibliothèque soit faussé. Là où les deux institutions semblent obéir aux mêmes contraintes, offrir les mêmes services, il existe dans les faits bien des divergences, que l'on pourrait décliner. Alors, je les décline ici. Je note qu'il existe une bibliothèque par ville, mais souvent plusieurs musées, ou plutôt un musée des beaux-arts et d'autres qui sont donc déclinables en fonction de la nature des œuvres ou du patrimoine conservé. Deuxième déclinaison, la première, la bibliothèque, vise à conserver, à mettre à disposition en sorte qu'elle ne se visite pas. On pourra revenir là-dessus après, si vous voulez. Elle ne se visite pas, on vient y consulter le plus souvent des documents précis, là où la seconde a pour fonction de conserver et d'exposer, en sorte qu'elle se visite le plus souvent en groupe, en famille ou en groupe. La bibliothèque est à la fois parfaitement ordinaire et néanmoins spécialisée. Chacun a ou peut avoir une bibliothèque chez soi, mais lorsqu'il s'agit de l'institution, la bibliothèque, plus celle-ci est complète et plus elle est destinée à des spécialistes qui viennent y viennent pour y accomplir un travail. À l'inverse, le musée est à la fois exceptionnel et néanmoins démocratique. Il se définit par la rareté de ce qu'il réunit, mais il s'ouvre à tous. Et chaque visiteur, même si c'est un collectionneur, par exemple, a potentiellement accès à toutes les œuvres exposées. Et c'est cette rareté qui, du coup, va justifier la réunion, mais néanmoins va être livré à tout un chacun. Donc, si nous possédons tous des livres, nous n'avons en revanche jamais accès à la bibliothèque, au sens où nous venons y compulser des livres en particulier, même lorsque les collections sont en libre accès. Alors que les collectionneurs qui détiennent des œuvres équivalentes à celles qu'ils vont contempler dans les musées, ces collectionneurs sont rares. Mais les lieux publics, les musées, leur sont, comme à tout le monde, entièrement accessibles. Et de fait, les musées sont même devenus en Europe ou au cours du XIXe siècle, dans notre monde, un lieu de passage de toute découverte d'un pays ou d'une ville. Ce sont des lieux où nous passons systématiquement. Alors même, c'est Bénédicte Savoie qui l'a montré ici dans son cours sur le musée transnational, enfin la vision transnationale des musées, ce sont les mêmes musées, les mêmes modes de construction, les mêmes modes d'exposition, souvent les mêmes œuvres prélevées des mêmes collections qui sont de musée en musée. Il n'y a rien de moins national qu'un musée, et pourtant, c'est ce que nous allons voir, comme s'il s'agissait du cœur même du pays, mieux encore que ses habitudes alimentaires. Alors, il est inutile de poursuivre cette énumération. La bibliothèque que nous espérions, cette bibliothèque imaginaire que j'espérais, ne constitue pas le pendant du musée imaginaire. C'est ce qui explique que l'essayiste préfère parler, pour sa part, du musée imaginaire de la littérature ou encore de la bibliothèque intérieure, et souvent, très souvent, de la bibliothèque de la Pléiade, qui désigne à la fois la collection que nous connaissons et, par métaphore, la bibliothèque idéale de l'honnête homme. Plus intéressant encore, Malraux précise très souvent, lorsqu'il parle de la bibliothèque, de l'appartenance de cette bibliothèque. Il parle, par exemple, de Flaubert, qui a vécu avec sa bibliothèque comme Hugo avec Juliette Drouet. Très belle formule. Ou cette autre idée, on avait admis qu'un lecteur du XIIe, du XVIIe ou du XIXe siècle établit entre sa bibliothèque et lui une relation semblable soumise à des critères différents. Je ne vous restitue pas tout le raisonnement, mais il y a cette idée qu'une bibliothèque est propre à chaque siècle. Ce dont il est question dans ces exemples, ça ne relève pas simplement du domaine de ce qu'on pourrait appeler du domaine de référence, par exemple. Comme lorsque Malraux parle de la bibliothèque du romantisme. Là, c'est tout un domaine de référence. Ici, ce que Malraux désignait, à propos de Flaubert ou d'autres, c'est très proche de ce que, à la même époque, dans les années 60 et 70, les théoriciens de la littérature inventaient sous le terme d'intertextualité. On est très proche de cela. Le musée s'adresse toujours à la foule la plus large, mais ce n'est pas le cas dans le domaine littéraire. Auquel Malraux applique dans Les Voies du silence, dans Néocritique ou dans L'homme précaire, une notion qui joue un rôle très important et qui est celle de secte. La secte, elle est pensée comme une certaine catégorie de lecteurs. Alors, parfois, Malraux parle de secte à propos du rapport de tout individu à tous les arts, et il englobe également la peinture, mais on voit très bien qu'à beaucoup d'autres moments, la secte concerne surtout la littérature, avant tout la littérature. Alors, il ne s'agit pas, lorsqu'on parle de secte dans l'esprit de Malraux, il ne s'agit pas de classe sociale, par exemple. Il s'agit de classe au sens sociologique, puisque la secte est internationale. Il s'agit d'un ensemble restreint, assez restreint, d'individus qui sont unis par ce que Malraux appelle la bibliothèque de l'admiration. Donc, une bibliothèque avec laquelle ces individus entretiennent un rapport de nécessité. Or, Malraux, qui est très souvent, et c'est assez paradoxal, attaqué, ou qui a très souvent été attaqué pour sa politique de démocratisation de la culture, que Marc Fumaroli faisait remonter aux perspectives jugées pernicieuses, aux utopies du Front populaire, dont il aurait été l'héritier en quelque sorte. Donc Malraux insiste au contraire, dans L'homme précaire et la littérature, sur le caractère très restreint du nombre de ces intoxiqués de la littérature. L'essayiste avance même des chiffres, alors la valeur de ces chiffres est beaucoup plus symbolique que statistique évidemment. Il écrit que le public touché en France par la littérature, le théâtre, la peinture, le vrai cinéma ne dépasse pas vraisemblablement 2 millions. Reste donc qu'il n'y a là rien de tout à fait comparable avec les 10 millions de visiteurs revendiqués par le seul musée du Louvre en 2018. Ce chiffre n'a cessé durant des années et ne cesse de continuer d'augmenter. Alors, à quoi tient la différence, une différence si grande, puisque notre relation à la littérature se trouve également réglée par la métamorphose, et que des scansions parfois assez proches de celles repérées par l'écrivain dans les écrits sur l'art s'y retrouvent. Elle tient avant tout à la fragilité du consensus sur lequel repose l'établissement de notre bibliothèque de la Pléiade, qui est la véritable forme de ce que Malraux ne nomme pas la bibliothèque imaginaire dans son texte. Ce consensus, il peut être constaté, mais pas rationalisé. Il repose sur la simple présence que certaines œuvres du passé continuent à exercer sur nous, des écrivains ou des œuvres. Mais force est d'admettre que l'action de la bibliothèque moderne est moins directe que celle du musée. Là où le musée obéit à une logique d'intégration, selon une dynamique que le phénomène de patrimonialisation depuis les années 80, une patrimonialisation qui est illimitée, Michel Melot l'a très bien monté dans un très très bel essai, cette dynamique donc de patrimonialisation illustre parfaitement cette espèce de phénomène d'intégration continuelle. La littérature obéit à l'inverse à une logique de sélection. Certes, il s'est produit un élargissement, William Marx en témoigne, à la littérature mondiale. La littérature est devenue mondiale. Mais cet élargissement, parallèlement, a été en quelque sorte limité ou s'est produit selon une sélectivité de plus en plus drastique de chacun des corpus nationaux, ou a imposé, a eu comme contre-effet une sélectivité de plus en plus grande. Bien plus, notre bibliothèque implique pour la première fois de l'histoire, selon Malraux, simultanément un consensus et l'impossibilité de légitimer ce consensus. Faute de normes qui seraient suffisamment claires ou d'institutions suffisamment stables, impossibilité qu'a illustré assez récemment, me semble-t-il, le récent classement des 101 romans préférés des lecteurs du monde, quel que soit ce que l'on pense de ce classement. Alors, par une très belle formule de Malraux, je ne l'ai pas indiqué sur le PowerPoint, quel présomptueux se ferait fort de désigner à coup sûr les phares de Baudelaire s'il devait en remplacer les peintres par des poètes. Nous aurions un accord beaucoup plus facile dans le cas de peintres que dans le cas de poètes ou d'écrivains. Tout est dit, la métamorphose de la littérature s'avère infiniment plus fragile, plus complexe que celle de l'art, puisque même si aucune esthétique partagée n'oriente notre rapport aux œuvres réunies dans le musée, l'expérience directe de leur présence nous rend accueillants à leur singularité, à même ce qu'elles ont de relativement illisible, incompréhensible, alors même que notre bibliothèque de la Pléiade ne nous donne plus le sentiment d'un consensus légitime aujourd'hui. Alors je voudrais terminer simplement par ce fait qui hante l'homme précaire et la littérature, à la fin de cet essai, à savoir l'entrée dans ce que Malraux nomme l'imaginaire des images, qui est celui qui devient le nôtre depuis les années 70, selon lui. Peut-être l'écrivain a-t-il écrit, Malraux donc, est-il été le seul à mesurer ce que signifiait cette espèce de phénomène de bascule, à savoir la fin programmée de l'imaginaire du roman. Non pas que le roman a disparu, ça Malraux ne le dit jamais, et c'est une évidence, Malraux répète continuellement que le passage d'un imaginaire à l'autre n'implique jamais aucune disparition. Ceci ne tue jamais cela. Tout coexiste en réalité. Néanmoins, c'est notre mode d'appréhension, notre système de hiérarchisation de valeurs, ce qui constitue ce qu'il appelle notre englobant, ce à travers quoi nous voyons tout. Notre englobant, donc, se recompose tout entier à chaque moment autour d'un nouvel imaginaire, et l'imaginaire qui est le nôtre est celui des images. Dans le cas présent, c'est un imaginaire qui est ouvert à l'aléatoire, notion que je n'ai pas le temps de développer, mais qui est une notion très importante chez Malraux à la fin dans l'homme précaire. L'imaginaire qui est celui des images, d'images qui coexistent entre elles, sans être subordonnées à une grammaire du sens qui leur serait contraignante. Alors on pourrait objecter bien sûr que cette évolution concerne également les musées, mais tout montre au contraire que nous vivons en un temps de musées florissants. C'est une formule de Malraux. Nous vivons en un temps de musées florissants, là où, au-delà des discours officiels convenus sur la valeur de la culture lettrée, que nous aimons tous, évidemment, entonner, la bibliothèque a perdu son rôle traditionnel. Et, afin de ne pas être trop polémique, je voudrais, pour conclure, prendre un seul exemple, mais qui, moi, me fascine tout particulièrement, qui est celui d'une vaste enquête qui a été menée par le sociologue Denis Merklun, que vous connaissez peut-être, qui s'intitule « Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ?» Enquête qui était parue en 2013. Cet exemple, alors je vais malheureusement en parler très vite, et il nécessiterait de très longs développements tant il soulève des questions essentielles pour nous et pour l'avenir de cette institution à laquelle nous sommes attachés, qu'est la bibliothèque, mais je n'ai pas le temps. Denis Merklun part d'un constat, d'une donnée statistique très simple. On recense entre 1996 et 2013, c'est à l'intérieur de cette période se sont produites les grandes émeutes d'octobre et novembre 2005, on recense donc 70 incendies de bibliothèques. Dans ces 70 incendies, il faudra ajouter les incendies non recensés par la presse, puisqu'il ne s'est appuyé que sur la presse, avant tout sur la presse, ensuite a fait une enquête auprès des personnes concernées, l'ensemble des personnes concernées, mais apparemment, beaucoup d'incendies n'ont pas été répercutés par la presse. Ces actes de vandalisme, ils sont extrêmement ciblés. Ce sont les bibliothèques, jamais les musées, qui sont visées parce qu'elles se situent entre l'État et le quartier et incarnent la valeur particulière qui est accordée en France à la culture écrite. Et de ce fait, elles hésitent entre l'institution scolaire dont, depuis les années 70, elles ont pourtant cherché à se distinguer très nettement pour inventer une autre forme de médiation entre le livre et le public, mais aussi donc entre l'institution scolaire et une forme de militantisme social, au risque néanmoins d'apparaître comme toujours des petits îlots de luxe au sein de quartiers livrés à la pauvreté. Dans un poème intitulé « À qui la faute ?», qui était publié dans l'année terrible, Victor Hugo, qu'on retrouve, avait imaginé le dialogue entre le poète, un poète, le poète, et un misérable, c'est la formule de Hugo, qui avait mis le feu à une bibliothèque au cours de la Commune de Paris. L'homme se montrait parfaitement conscient qu'il y a très peu de mots, il n'a que deux formules au début et à la fin du poème. L'homme en question, conscient donc de son geste, avançait pour seule justification de son geste, ce qui constitue la fin du poème, « Je ne sais pas lire ». Et Hugo voyait, à juste titre, dans l'acte de vandalisme, un message adressé à l'ordre politique. Or, les habitants des banlieues, qui visent les bibliothèques, savent lire. Qu'ils ne sachent pas bien lire ou bien écrire au regard des normes scolaires importe peu. Tous ont été scolarisés. Il y a là une inversion complète du rapport au livre comme source de savoir et d'émancipation, telle que l'avait promu une très longue tradition de culture populaire qui était née à la fin du XIXe siècle et qui avait été défendue par quantité de courants de gauche, syndicalistes, communistes, etc., et par le catholicisme social. C'est ici brûler la bibliothèque qui devient le moyen de revendiquer une dignité. Pour quelles raisons ? Alors, Denis Merklun avance toutes sortes d'hypothèses passionnantes, en particulier le processus de désindustrialisation et de destruction des métiers manuels, le chômage de masse, l'incapacité du système scolaire à corriger la reproduction sociale, qui en fait donc un ennemi de toute une série de classes sociales. Ces différents facteurs, ils expliquent que la culture de gauche à visée humaniste sur laquelle s'appuyaient les bibliothèques s'effondre auprès de toute une partie de la population et ne permettent plus de répondre de façon efficace à cette espèce de grand bouleversement de la culture lettrée qu'entraîne en plus le passage au numérique aujourd'hui. Alors, je suis désolé de terminer sur une note qui peut paraître un petit peu négative, mais je voulais évoquer cela parce que le phénomène des bibliothèques brûlées, me semble tout à fait représentatif de l'écart qui existe, écart grandissant qui existe entre les deux institutions que Malraux avait prévues, le musée et la bibliothèque, et qui va plus loin. Je pourrais prendre là aussi d'autres exemples, mais on ne trouve pas de bibliothèque brûlée, mais de musée brûlé. Mais il y aurait plus à dire encore, c'est notamment, par exemple, la course que l'on observe à la Bibliothèque nationale pour se transformer en une sorte de musée, en multipliant les expositions, en accueillant toutes sortes, en faisant même du livre un objet d'exposition, transformation continuelle donc en musée, comme si le musée était le seul modèle pour une bibliothèque comme la BNF qui permette de, en quelque sorte, retrouver une place au sein d'un monde culturel où elle, ses lecteurs privilégiés ou premiers, à savoir ceux que nous sommes, ne suffiraient pas en quelque sorte à lui donner ce statut. Il y aurait d'autres exemples que l'on pourrait prendre, mais voilà, je n'en dis pas plus. Merci à vous.